Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Quelques sueurs froides pour les 7 astronautes de la Station Spatiale Internationale lorsque la Russie, à l'aide d'un missile, a pulvérisé l'un de ses vieux satellites en orbite. C'était la semaine dernière, ça s'est passé à environ 500 km au-dessus de nos têtes. Alors au-delà de la frayeur et des débris de satellites qui se baladent désormais dans l'espace, que veut dire ce tir de missile? Pourquoi en ce moment une telle démonstration de force des Russes? Et puis, a-t-on le droit de jouer à la guerre dans l'espace? Ou alors est-ce le présage d'une nouvelle bataille dans un espace censé être un bien commun? Autant de questions que nous poserons ce soir à nos trois invités. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, c'est le débat du jour.
RFI.
Et à la suite de ce tir de missile russe dans l'espace, pour les États-Unis, c'est un test irresponsable, des saccageurs de l'espace pour la France, des accusations jugées hypocrites par Moscou. Trois invités autour de la table pour en débattre. Tout d'abord, Philippe Aquileas, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de droit public à l'Université de Paris-Saclay, directeur à l'Institut du droit espace-technologie. En face de vous, Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis Jean-Luc Lefebvre, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur en stratégie, ancien officier de l'armée de l'air, auteur du livre « Stratégie spatiale » chez ISTE Éditions. Votre lecture à tous les trois, messieurs, de ce tir de missile russe, à commencer par vous, Xavier Pascaud.
Bon, c'est clairement une démonstration de force. Hein. Donc, les Russes ont réalisé une interception à partir d'un missile qu'ils ont tiré depuis le sol. Alors, c'est quelque chose qu'avaient fait les Chinois en 2007, qu'ont fait les Américains en 2008, qu'ont fait les Indiens en mars 2019. Et en fait, dans cette période très récente, on va dire que voilà, ça manifeste une tension qui s'avive dans l'espace. Les programmes en 6 satellites sont vieux comme l'espace, j'allais dire, depuis les années 60, on en connaît. Mais là, on voit une succession qui symbolise un petit peu ces tensions qui s'avivent.
Alors pourquoi ça le symbolise autant, d'après vous, Philippe Aquileas?
Bien, ça symbolise les tensions d'abord parce que l'espace est une zone stratégique hein, et qui intéresse aussi et surtout les militaires, et ce dès le début de la conquête spatiale, et puis aussi parce que on retrouve un peu un relent de la guerre froide aujourd'hui. Et que Moscou souhaite apparaître aussi toujours comme une puissance spatiale, ne pas laisser en fait la question dans le cadre d'un débat entre les États-Unis et la Chine. Donc il y a un peu cette volonté de dire j'existe aussi et j'ai des compétences, et je les ai toujours eues d'ailleurs, en matière de spatiale militaire.
Une destruction de satellites par un missile qui n'est pas anodine. Jean-Luc Lefebvre.
Oui, alors deux observations à ce sujet-là. Bon, tout d'abord, Xavier Pascaud a dit que c'était une démonstration de force. C'est bien cela. La Russie, en droit, je pense qu'elle peut détruire un de ses propres satellites. Mais il faut bien comprendre que d'un point de vue stratégique, ce n'est pas un mode opératoire adapté à l'espace. Dans l'espace, si on veut poursuivre un combat durable et protéger ses propres satellites, il faut être capable de neutraliser les moyens adverses sans les détruire.
En l'occurrence, ce vieux satellite hein, qui datait, je crois, de 1982, qui n'était plus opérationnel, n'avait pas forcément là le besoin pressant d'être détruit.
Non.
Les vieux satellites, où ils restent très longtemps dans l'espace s'ils sont dans des orbites élevées, où ils vont venir rentrer, se détruire en brûlant dans l'atmosphère s'ils sont dans des orbites basses. C'est ça la fin de vie d'un satellite.
Si les réactions étaient aussi vives, c'est parce qu'on se trouve aujourd'hui dans un débat international, notamment sur la question des débris spatiaux qui se sont accrus en nombre ces dernières années, au point de parfois mettre en question l'utilisation de certaines orbites. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'espace, eh bien, quand on détruit quelque chose, ça produit des débris qui vont rester des années selon l'altitude à laquelle ça se passe, voire des dizaines d'années, voire des siècles. Et à partir de là, finalement, on est très interdépendant dans l'espace. Celui qui fait une action de ce type fait payer la facture à tout le monde, y compris à lui-même d'ailleurs. Et c'est ça, c'est un problème important.
Expliquez-nous simplement à quelle hauteur nous sommes quand vous dites tout ça, comparé par exemple à la Station Spatiale Internationale. Quand il y a des débris.
Ça s'est passé à quelques dizaines de kilomètres au-dessus de la station spatiale. La station évolue à 400 km d'altitude et là, ça s'est passé à peu près 480-500 km d'altitude. Alors, les débris s'en vont dans toutes les directions et c'est ça le problème, ça croise les orbites.
Oui, il faut bien comprendre qu'un pays qui génère des débris, d'une certaine manière, il se tire une balle dans le pied parce que ces débris sont aussi des dangers pour ses propres satellites qui sont dans les mêmes classes d'orbite.
Comme un effet domino.
Oui. Et puis après, il y a un deuxième effet. À partir d'un certain nombre de débris dans un certain domaine de l'espace, c'est un chercheur qui s'appelle Kessler qui a démontré ça il y a quelques décennies. Il se passe une réaction en chaîne, comme dans un réacteur nucléaire, où les débris peuvent percuter d'autres débris, générant de nouveaux débris, et la réaction est divergente. Et le grand risque, c'est qu'on ait toute une classe d'orbites qui deviennent complètement inutilisables pour des siècles.
Autrement dit, les États sont interdépendants dans l'espace.
Ah ben complètement.
D'un point de vue législatif, ou en tout cas en termes de droit, est-ce que les Russes, comme ça, peuvent se permettre du jour au lendemain, sans prévenir leurs voisins, d'envoyer un missile ?
Alors il y a deux éléments qui sont importants. D'abord, du point de vue de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, ce qui est interdit, en fait, c'est de placer des armes de destruction massive en orbite autour de la Terre et d'avoir un comportement agressif vis-à-vis d'un autre pays. Or là, en détruisant son propre satellite, il n'y a pas d'agression internationale. Du point de vue de la création des débris spatiaux, il y a bien des règles. Il y a des directives techniques qui ont été adoptées par l'industrie, validées par l'ONU. Parmi ces règles figure l'interdiction des explosions volontaires en orbite. Mais ces règles ne sont pas obligatoires, elles sont politiques et l'Assemblée générale de l'ONU, ici, c'est la bonne foi des États qui va permettre l'application de ces règles.
Oui, je pense que Philippe pourra en parler, mais les textes, en fait, les traités sont assez peu nombreux pour ce qui concerne l'espace. Les textes qui engagent les États juridiquement sont assez peu nombreux. Et finalement, l'un des principaux textes, qui est le traité du 27 janvier 67, le traité sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, est très peu engageant, n'interdit effectivement, on va dire, que la mise en orbite de bombes nucléaires, globalement, mais n'interdit pas de développer des armes et éventuellement de procéder à ces expérimentations.
Ce qui est très intéressant, c'est comme le traité présente des lacunes, la Russie et la Chine sont à l'initiative d'un texte qu'ils veulent faire adopter à l'ONU, un texte qui vise à interdire les activités, pas militaires, mais les activités agressives dans l'espace. Ils veulent interdire, en fait, le déploiement d'armes en orbite. Et là, alors que les Américains leur disent, mais en réalité, derrière ce texte, c'est juste une stratégie qui vise à empêcher les États-Unis d'avancer sur leur programme militaire spatiaux, on voit les Russes qui font un tir de missile.
Il faut noter que ce tir de missile n'aurait pas été interdit par ce projet de traité, parce qu'il ne s'agit pas d'une arme déployée en orbite. Hein. Il s'agit d'une arme au sol qui vient percuter.
Mais quelle quand même mauvaise foi de la part de la Russie qui négocie ce texte à l'ONU et qui se permet un tir de missile.
Jean-Luc Lefebvre.
Sur le plan stratégique, la destruction de satellites pour créer un grand nombre de débris est une réaction du faible au fort, voire, s'il y avait un vrai conflit, du presque désespéré au très fort.
Alors là, vous pensez à qui, en l'occurrence, oui.
Non, je pense à plusieurs tirs. L'espace est un milieu partagé par tous, comme la haute mer est un milieu partagé par toutes les flottes du monde. Si vous voulez interdire l'utilisation de l'espace, eh bien, vous faites ce qu'ont fait les Russes, en un peu plus grand, en détruisant une dizaine de satellites. Et là, vous allez générer suffisamment de débris pour interdire toute une classe d'orbite, mais pour tout le monde. C'est l'équivalent, si vous voulez, dans le milieu naval, d'un champ de mines navales flottantes qui interdisent toute une zone, mais aussi pour tout le monde. Donc, toute nation qui veut utiliser raisonnablement l'espace, et pas seulement pour des besoins militaires, parce que n'oublions pas que l'espace est quand même très largement utilisé pour des applications civiles, télécommunications, télévision, navigation, etc. Eh bien, un État qui veut continuer à avoir des moyens spatiaux s'interdit de détruire, de générer des débris en tout cas. C'est pour ça que je rejoins Xavier Pascaud lorsqu'il disait « c'est une démonstration de force ». Et moi, je m'interroge sur les vraies motivations du président Poutine derrière cette démonstration de force.
Pourquoi, à ce moment-là, la Russie a-t-elle besoin de sortir les muscles ?
Ce qu'il faut voir, c'est que dans ce domaine des armes spatiales, on est très connexe à un autre domaine qui est le domaine des armes anti-missiles, anti-missiles balistiques. Hein. C'est-à-dire que depuis les années 80, depuis même avant en réalité aux États-Unis, en Union soviétique, mais notamment avec la guerre des étoiles de Ronald Reagan, il y a ce projet qui est toujours là pour les grandes puissances de montrer qu'elles sont capables d'intercepter les missiles nucléaires de l'adversaire. Et ce missile particulier qui a été utilisé pour ce test anti-satellite, c'est aussi un missile qui a pour vocation de protéger la Russie contre les tirs balistiques. Et d'une certaine manière, on a l'impression qu'à côté de l'aspect spatial des choses, il y a aussi un message qui est envoyé, alors là, pour les stratèges militaires, on va dire, dans le domaine nucléaire et balistique, pour dire, là, on mène à bien un programme qui commence à avoir, notamment pour les Russes, c'était très important de démontrer ce qu'on appelle le hit to kill, c'est-à-dire la capacité à taper directement avec un missile. Les Russes ont une tradition dans le domaine antimissile qui est d'exploser à proximité de la cible, notamment avec des charges nucléaires, c'est ce qui était présent pendant la guerre froide. Et là, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une sorte de montée en gamme. Évidemment, il ne s'agit pas, quand on casse un satellite, d'avoir le même type de performance qu'une ogive nucléaire qui viendrait d'un missile, mais c'est quand même un signe. Et donc, il faut mettre aussi dans le contexte... L'espace est un peu pris en otage dans ces grands bras de fer stratégiques.
Alors là, justement, il y a des objets spatiaux qui peuvent dérouter les missiles anti-satellites ou anti-missiles. Ce sont des drones spatiaux comme le X-37B, qui est une forme d'avion spatial, une mini-navette, si vous voulez, automatique, et qui a une certaine portance et qui peut changer sa trajectoire, qui n'a pas seulement une trajectoire balistique. Et plus récemment, les Chinois ont fait la démonstration d'un missile orbital qui contenait un planeur hypersonique qui a été testé le 27 juillet dernier. Et là, c'est une arme de conception nouvelle parce que les Chinois ont démontré leur capacité de placer en orbite des objets dont la pénétration dans l'atmosphère peut être manœuvrante et donc capable de déjouer des défenses classiques antimissiles.
Et c'est justement d'ailleurs aujourd'hui que la NASA a projeté un vaisseau à plus de 24 000 km/h pour aller dévier un astéroïde et présenté comme pour nous protéger d'un éventuel accident. Vous vouliez réagir, Philippe Achilleas.
Tout à fait. Donc on voit bien que le débat autour de la prévention d'une course aux armements dans l'espace est un peu biaisé puisque en fait toutes les puissances développent des moyens d'action dans l'espace. Donc à l'ONU, aujourd'hui, il y a une approche qui me semble très intéressante, qui est l'approche qui est soutenue par le Royaume-Uni et l'Europe, qui est de développer des normes de comportement responsable dans l'espace. Et d'ailleurs, regardez bien le vocabulaire qui est employé pour qualifier le tir russe par les Américains, c'est un comportement irresponsable. Parce que derrière, il y a un projet sur la table, les Russes n'en veulent pas, c'est d'essayer de définir ce qu'est un bon comportement dans l'espace pour éviter de menacer la sécurité des activités spatiales.
Avec le dernier tir de missile russe, est-ce que les rapports de force là dans l'espace à l'heure actuelle ont changé ?
Non, pas véritablement. Bon, les Russes ont fait la démonstration qu'ils étaient capables de mener à bien ce type de tir. C'est une performance, mais personne n'en doutait réellement. Comme l'a dit Philippe tout à l'heure, les Russes, depuis les débuts, ont fait la preuve de leur compétence dans le domaine spatial, dans tous les domaines, on va dire, de l'activité spatiale. En revanche, non, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un incrément. On est dans une, pour nous qui suivons ces débats de près, on peut, si on le regarde simplement par le prisme spatial, voir dans ce test un caractère très paradoxal, finalement, ou alors au moment même, on est en train d'échanger sur les meilleurs moyens d'assurer notre sécurité collective. On parle beaucoup des débats. débris. Et d'ailleurs, pas qu'au plan militaire, hein, ça dépasse de loin le seul champ de la défense. Il faut, les astronautes, on l'a vu pour la station, ont été mis en danger, a priori, mis à risque, on va dire, voilà. Eh bien, à ce moment-là, on a ce tir et on se pose effectivement des questions. Les Russes le savent très bien, les Russes savent très bien les conséquences d'un tir de ce type. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'effectivement, ce tir n'a pas été fait quand même totalement n'importe comment, mais néanmoins, il fait peser des risques. Et les altitudes, l'altitude à laquelle ça a été fait, c'est vrai que c'est une altitude qui est quand même très risquée.
Pensez-vous que cette démonstration russe risque cependant de donner des idées à d'autres puissances ?
Ouais, aujourd'hui, je dirais que les puissances qui ont voulu démontrer cette capacité, elles l'ont fait. Je veux dire, on pourrait avoir peut-être des puissances européennes ne sont pas tout à fait dans cet état d'esprit-là aujourd'hui, si vous voulez. En revanche, la France, qui a publié sa stratégie spatiale de défense en 2019, a annoncé qu'elle considérait l'espace comme, je dirais, quelque chose de critique pour elle, pour quelque chose comme un intérêt vital d'une certaine manière, et annonce aujourd'hui sa volonté de mieux surveiller ce qui s'y passe et voir éventuellement de mieux surveiller les abords de ses satellites. Aujourd'hui, on parle de défense active, alors ce sont des termes un petit peu comme ça, on se demande un peu ce qu'il y a derrière, on n'en est pas aujourd'hui. Et j'imagine, j'ose espérer, à vouloir démontrer et créer de nouveaux débris par un geste de ce type.
Parce qu'il y a un point qui est intéressant dans ce qu'a rappelé Xavier, c'est que nous sommes tous dépendants des satellites. Tous nos territoires et tous les pays dépendent des données spatiales. Et donc, ce sont des infrastructures qui sont essentielles. Il faut les protéger contre des attaques. Et c'est un peu la position de la France, c'est de dire, nous, on est prêts à protéger notre infrastructure spatiale, l'infrastructure spatiale européenne aussi, parce que nous, et surtout, si on veut rester une puissance militaire, on est dépendant de la donnée spatiale.
En l'occurrence, on parle énormément aussi là, de puissance spatiale et donc de pays riches. Et les autres pays, on fait quoi ? On regarde les satellites passer au-dessus de nos têtes ?
Alors les autres pays, ils ont toujours été associés à l'aventure spatiale. Déjà, on a eu besoin de leur aval pour faire adopter des grands traités à l'ONU, hein, le traité de l'espace, qui donne quand même des garanties aux pays en développement. Et puis, ils bénéficient des programmes spatiaux, notamment l'observation de la Terre, qui peut être utilisée à des fins de gestion du territoire, prévention de l'agriculture, de protection de l'environnement, etc.
Aujourd'hui, plus de 80 pays ont au moins un satellite dans l'espace. Voilà. Hein, ça, on le sait peu. On parle souvent des grandes puissances spatiales, mais beaucoup de pays reposent sur l'espace pour le développement aussi de leur économie, pour leur agriculture, etc. Donc c'est quand même un bien, vous parliez de bien commun, c'est le cas.
Dont des pays, des pays africains, le Nigeria qui a une agence spatiale qui est assez performante, le Maroc qui est très présent aussi sous l'angle de la télédétection, l'Égypte. Il y a une agence spatiale africaine qui maintenant s'est établie au Caire. L'Afrique est présente aussi sur ce terrain-là.
Jean-Luc Lefebvre.
Oui, alors effectivement, l'agence spatiale africaine est dans les limbes, mais l'Afrique s'organise autour de l'espace. Et il y a quand même une chose. L'espace, tout ce qui se passe là-haut fait rêver, mais le citoyen moyen ne voit pas ce qui se passe là-haut. En revanche, l'espace, faut ramener les pieds sur Terre un moment. Hein. L'espace, les activités spatiales ne pourraient pas fonctionner sans une vingtaine de bases de lancement dans le monde. Dans le monde, il y a une vingtaine de bases opérationnelles. Bon. Et les plus grands pays, comme les États-Unis et la Chine, en ont 5 chacun. La Russie, on peut compter 4, dont une qui n'est pas sur le territoire de la Russie, puisque Baïkonour est au Kazakhstan. Le Japon en a 2. Et nous, toute l'Europe, on a une seule base, qui est à Kourou, en Guyane, comme vous le savez, et on n'a pas de backup. Il suffit de détruire ou de neutraliser une base spatiale pour interdire à une puissance d'avoir son activité spatiale. Et là, c'est une conviction que je porte. L'Europe devrait se constituer une base de secours parce que les enjeux de l'accès à l'espace sont trop forts. Et là, les Africains pourraient très bien nous aider.
La bataille de l'espace, c'est le débat du jour sur RFI.
Le débat du jour sur RFI. Adrien Delgrange.
Avec trois invités, Jean-Luc Lefebvre, Xavier Pascaux, Philippe Aquileas. Alors, des films l'ont déjà traité. Pouvez-vous quand même tenter de nous expliquer à quoi pourrait ressembler cette guerre de l'espace, Xavier Pascaux?
Alors moi, j'aime pas trop parler de guerre de l'espace aujourd'hui, parce qu'on a le sentiment, effectivement, qu'on va vers ce type de situation. Juste, voilà, pour cadrer les choses au départ, je pense qu'on est aujourd'hui plutôt dans une ère de confrontation et de tension plutôt qu'une ère de guerre, en tout cas, je l'espère. Alors, ce qui est évident, c'est que si une guerre se déclarait sur Terre, aujourd'hui, l'espace serait concerné. Je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses.
Et alors, comment l'espace serait concerné?
Alors, mais par là, évidemment, la destruction de satellites. Alors, ceci dit, on peut détruire les satellites, ou en tout cas les empêcher de bien fonctionner, pas seulement en créant des milliers de débris. On peut, par exemple, interférer avec eux en envoyant des ondes électromagnétiques pour éviter qu'ils puissent transmettre leur message, par exemple. On peut, avec aujourd'hui, on le voit de plus en plus, hein, il y a des expérimentations qu'on appelle d'armes à énergie dirigée, par exemple les lasers, qui pourraient toucher des satellites d'observation et les aveugler. Alors, les aveugler plus ou moins temporairement, parfois éventuellement définitivement. Et puis, on voit de plus en plus d'expérimentations en orbite qui sont des satellites manœuvrants, qui se rapprochent d'autres satellites, éventuellement peut-être pour les écouter, les espionner, voire éventuellement les toucher et avoir un contact avec eux. Donc tout ça, vous savez, l'espace est très vulnérable. Un satellite, c'est très léger, c'est un objet extrêmement vulnérable. Et donc, on peut perturber en orbite, effectivement. Et puis, il y a l'autre aspect que soulignait Jean-Luc Lefebvre, c'est vraiment tout ce qui peut se passer au sol. Après tout, une base spatiale, un relais de télécommunication, une base de contrôle de satellite, c'est un équipement qu'on peut éventuellement détruire. Donc, on voit bien qu'on aurait ces deux types d'actions.
Et puis, Philippe Aquileas.
Et puis, un satellite, c'est une infrastructure télécom, donc on peut aussi avoir des cyberattaques contre les satellites dont on dit qu'ils sont assez vulnérables aussi sous l'angle donc des attaques informatiques.
L'espace pourrait être un théâtre de guerre, Jean-Luc Lefebvre?
Alors, mais Xavier Pascaux et Philippe Aquileas ont très bien décrit le comment de ce que pourrait être une guerre spatiale. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir réfléchir au pourquoi. Les guerres terrestres, finalement, le plus souvent, on se bat pour un territoire, pour agrandir son territoire, c'est une des grandes causes de guerre. Il peut y avoir, quand il y a des conflits importants, des batailles navales, des batailles aériennes. Mais ce sont des batailles périphériques par rapport à la bataille terrestre principale. Moi, je pense que la guerre spatiale pourra ressembler aux guerres que l'on connaît aujourd'hui, les guerres terrestres, quand on va se battre pour la possession d'un astre ou d'une partie d'un astre. Et je ne suis pas du tout indifférent à ce qui se passe autour du retour sur la Lune pour les Américains ou de l'accès à la Lune pour les Chinois, parce que la Lune a un sol, la Lune présente des intérêts stratégiques, la Lune domine la Terre, la Lune présente toute une face cachée qui est invulnérable vis-à-vis d'un tir direct depuis la Terre, et la Lune peut présenter des intérêts stratégiques, et peut-être qu'un jour, bon, c'est de la prospective, mais peut-être qu'un jour, il pourra y avoir une bataille pour la Lune.
Que pensez-vous de cette prospective, Philippe Aquileas?
Je trouve qu'elle est déjà prévue un peu dans les textes, puisque si on lit le dernier accord, qui est l'accord Artemis, qui est proposé par les États-Unis à leurs partenaires pour construire une base sur la Lune, on prévoit bien un périmètre de sécurité autour des installations, et les Américains envisagent aussi des mesures de police sur la Lune, et ça sera certainement l'armée qui va se charger de faire la police sur la Lune, l'armée américaine.
Tout se passe comme si... L'espace, ça reste un environnement extrêmement hostile, difficile à maîtriser. Et les lois de la physique spatiale font qu'on y fait difficilement de manœuvre. On met pas un frein à main, on fait pas de marche arrière. Voilà. Mais on voit avec l'avènement des technologies, avec les progrès qui sont réalisés, qu'on va habiter l'espace d'une manière de plus en plus maillée, j'allais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, on lance un homme dans une station spatiale, il fait des traits, finalement, il parcourt des orbites, et puis il revient sur Terre en se réchauffant très fort, mais en ne brûlant pas, heureusement. Eh bien, ce qu'on va voir de plus en plus, sans doute, et notamment dans le cadre du programme lunaire que Jean-Luc et Philippe ont décrit, un espace qui va devenir de plus en plus occupé, de plus en plus habité, avec des points logistiques, des points de ravitaillement pour les ergols. Tout ça est déjà un peu dans les limbes. On va même avoir une station lunaire où on pourra mettre des astronautes. Et des gens vont commencer à faire, j'allais dire, des allers-retours dans l'espace. Et à partir du moment où vous occupez un peu plus les lieux, bah évidemment, vous transportez avec vous, vous vous projetez dans un espace que vous voulez un petit peu mieux contrôler. Et là, on commence à parler de territoire, ce qui est tout à fait incongru, hein, aujourd'hui, dans le cadre législatif spatial. L'espace est un bien commun. Il y a un principe de non-appropriation, hein, qui est un principe général du droit spatial aujourd'hui. Et on voit bien que là, en ce moment, bah, ces principes commencent à être un petit peu érodés quand même.
Alors justement, cette occupation de l'espace, cette militarisation pourrait être aussi ou pas un garde-fou. Autrement dit, est-ce que l'interdépendance des nations en orbite pourrait aussi conduire à une autodissuasion des éventuelles attaques ?
C'est le principe aujourd'hui. Je dirais qu'aujourd'hui, la position des gouvernements, la position de ce que je lis de la stratégie spatiale de défense, par exemple, c'est de dire, bon, on se rend compte et on n'est pas, malheureusement, on est obligé de s'en rendre compte. On voit bien que les systèmes de défense sont en train de se muscler dans l'espace. Les gens veulent se défendre. Il y a un principe de légitime défense, etc. Donc, on prend acte de ça. Et d'une certaine manière, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait une façon de se réunir en disant, eh bien, on se reconnaît à chacun le droit de se défendre, mais du coup, faisons-le de manière responsable. Ce serait en même temps un peu un paradoxe. On aurait une défense, un aspect militaire qui grandirait dans l'espace, qui s'accroîtrait, et en même temps, on voudrait accroître la transparence qui va avec. Et ça, c'est un vrai défi.
Oui, mais pour aller plus loin, il faudrait même organiser une défense collective vis-à-vis des dangers qui viennent du reste de l'univers.
Parce des casques bleus de l'espace.
Non, sans imaginer des aliens. Les géocroiseurs sont des corps spatiaux dont la probabilité de rencontre avec la Terre est pas nulle. Et de toute façon, statistiquement, ça arrive et il arrivera un jour qu'un géocroiseur de forte taille risquera de percuter la Terre. Donc, développer ensemble, par une coopération des agences spatiales, des systèmes pour pouvoir éviter cela, voilà une bonne manière de dépenser l'argent des contribuables.
Ouais, Philippe, sauf qu'aujourd'hui, une coopération dans le domaine spatial entre les États-Unis et la Chine est tout simplement impossible. C'est-à-dire que les Américains bloquent tout programme de coopération avec la Chine, tout simplement parce qu'ils veulent conserver leur avance et ne souhaitent pas transférer de la technologie ou du savoir-faire à la Chine. Donc ce projet où toutes les agences spatiales vont se mettre autour de la table, à mon avis, il faudra avoir du temps pour se réaliser.
Les Américains appellent ça la défense planétaire. Aujourd'hui, il y a un terme consacré pour ça. Et il y a d'ailleurs un engin qui vient d'être lancé, un DART, qui vient d'être lancé pour expérimenter un choc sur un corps céleste pour voir un peu ses résultats.
Celui qui a été envoyé par la NASA la nuit dernière.
NASA, c'est ça. Et donc, on est un peu dans cet état d'esprit-là. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que tous ces programmes de défense planétaire, c'est un peu ironique, sont aussi un héritage de la guerre des étoiles des années Reagan, où on envisageait d'utiliser ces moyens-là contre des missiles plutôt que contre des astéroïdes. Mais bon, c'est très bien, on reconvertit ça pour une défense plus collective.
Un dernier mot, vous vouliez ajouter, Jean-Luc Lefebvre ?
Oui, je ne voudrais pas complètement contredire mon ami Philippe Aquileas, mais j'ai l'impression que l'avance technologique américaine vis-à-vis de la Chine est en train de se réduire assez vite.
Bon, moi, je dirais simplement, en tant que juriste, qu'on avait adopté en 1967 un traité qui prévoyait la notion de patrimoine commun pour l'espace, non-appropriation de l'espace, utilisation pacifique de l'espace. L'objectif, c'était d'éviter de reproduire dans l'espace les erreurs commises sur Terre et qu'on voit aujourd'hui, que ce soit à travers la privatisation ou à travers la militarisation, qu'on est en train de faire les mêmes erreurs.
Philippe Aquileas, professeur en droit public à l'Université Paris-Saclay, directeur de l'Institut du droit, espace et technologie. Merci à vous. Il y avait également dans cette émission Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, et Jean-Luc Lefebvre, chercheur en stratégie, ancien officier de l'armée de l'air, auteur du livre « Stratégie spatiale ». C'est la fin de ce débat, émission à réécouter quand vous voulez sur notre site internet rfi.fr, réalisé ce soir par Laurent Philippot, coordination Arnold Assewa, documentation Emmanuel Sevin, rédaction en chef Patrick Adam. Quant à moi, Adrien, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau débat. À suivre dans quelques secondes sur la Radio du Monde, un nouveau journal.